Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Comment assurer la cohésion et la bonne gouvernance dans les provinces de la RDC? Et bien on en parle dans ce nouveau numéro avec notre invité Norbert Yambayamba, directeur du cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il est également auteur de plusieurs ouvrages. On va le recevoir tout à l'heure dans ce studio. Dans la deuxième partie de ce magazine, on va parler de ce qu'il faut faire pour améliorer le taux de couverture et la qualité des télécommunications en RDC. Maître Séraphin Omba, directeur du cabinet du ministre de Poste, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication sera notre invité. Voilà le menu pour le magazine Okapi Service de ce jour. Jean-Noël Mokondo étant la mise en ligne, Tati Mapo pour réaliser et coordonner ce magazine. Présenté par Marcel Ngombombala sous la supervision de Jean-Marc Mataki. À toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute de ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nzoto ya mwana moto bolingi bolia yango lokola mosuni nde ya nyama bokokende na yango wapi na kisaso yo botika asala asala akoba bolingi nini na nzoto na yemba ndeko leyemba nalembi bato oyo le
kisasa makambo
kisasa makambo Bato mobimba bako vanda se masolo ya bato balingi ko destabilize bato yonso bandeko tosala nini na matongi kisa se kompeba na matongi kotongo bato butu moi kaka kolembente lei soki olandi bato oyo bandeko okoya kobunga nzela ya mosala okotika bana na mwasi basufri mpo na bango lei yemba bandeko lei
nayembaka mapaya
nayembaka mapaya
olwambo basasinga na nsima sekosasa balambi lokumo na nga na ndunda pololo bakomi ndako na nga na kombo ya mbasi lwambo oyoyoyo balanga nzembo nasala ninyo
nzoto ya mwana moninga botika evanda pembeni bokolongola mosuni bokotika makila na nani makila ngungi amela amela alemba abimba libumu ya moke soki obeti mbata epasuka lei yemba nalembi bato oyo bandeko.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. On va y aller avec notre invité, Norbert Yambayamba, directeur du cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et auteur de plusieurs ouvrages sur la décentralisation, mais aussi panafricaine. africaniste. Il vient de nous rejoindre dans ce studio, Monsieur Norbert Yambayamba, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va aborder cette question sur comment assurer la cohésion et la bonne gouvernance dans les provinces de la RDC. On le sait, la plupart des provinces de la RDC connaissent un problème sérieux de gestion de la chose publique depuis l'application de la loi sur la décentralisation, détournement, conflit d'intérêts entre l'administration nationale et provinciale, à propos notamment de la rétrocession, qui sont les quelques mots qui affectent le bon fonctionnement des provinces démembrées. Autre constat, on assiste de manière récurrente à des motions de défiance dans certains assemblées provinciales. Tous ces facteurs constituent un véritable obstacle au développement de ces provinces. Alors avec vous, on va découvrir qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer la bonne gouvernance et la cohésion dans la gestion des provinces de la RDC. Je rappelle, si vous êtes intéressé, vous voulez réagir, vous pouvez le faire par un message vocal à ce numéro, les 09 706 99 41. Je répète, 09 706 99 41. Nous avons un problème quelques problèmes techniques avec nos lignes habituelles, donc ne nous appelez pas sur nos lignes habituelles, faites plutôt un message vocal à ce numéro, les 09 706 99 41. Et surtout aussi, j'insiste, n'appelez pas ce numéro, vous faites comme message vocal. Je répète encore une fois les numéros 09 706 99 41. Voilà, je reviens à mon invité, à Monsieur Norbert Yambayamba. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va parler de la gestion dans les provinces. On le sait, depuis qu'il y a cette loi sur la décentralisation, et il y a, avec tout ce qu'il y a comme province démembrée, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes, et des problèmes, c'est sur la gestion, sur la cohésion. Selon vous, qu'est-ce qui peut être d'abord la base de tous ces problèmes qu'on rencontre dans les provinces?
Merci pour l'invitation. Vous avez pensé à nous et nous sommes heureux de nous adresser à votre public, à notre public, qui a besoin de savoir ce qui se passe actuellement à province. Avant toute chose, je voudrais quand même donner la configuration institutionnelle de notre pays.
Oui.
Le pays est tellement grand, 2 345 000 km². 80 fois plus que la Belgique, 4 fois et demi plus que la France, 5 fois l'Allemagne fédérale, 100 fois le Rwanda.
On parle même d'un semi-continent.
C'est un sous-continent.
Un sous-continent, voilà, oui.
Et c'est sous-continent. Et donc, dans une telle perspective, il faut organiser le pays. Sinon, alors, on risque d'avoir un développement à deux vitesses. Il y a des provinces qui vont se développer, il y en a d'autres qui vont véritablement ne pas se développer. Et alors pour le faire, il faut une restructuration géographique de la République. Restructurer la République, ça veut dire organiser la gestion de la République. Et l'organisation de la gestion de la République passe par la décentralisation. C'est comme ça que vous voyez la constitution du 8 février 2006, telle que modifiée à ce jour, consacre la décentralisation comme étant le mode de gestion de notre territoire. Alors, cette décentralisation a trois paliers. Le législateur s'est rendu compte que booster le développement de la République passe par l'organisation à trois niveaux de gouvernance. Il y a la gouvernance au niveau central, la gouvernance au niveau provincial et la gouvernance au niveau local. Au niveau local, vous avez les villes, vous avez les communes, vous avez les secteurs ou les chefferies. Et donc, à chaque niveau, il y a un programme, et le programme, c'est un ensemble de projets, et le projet, c'est un ensemble de réponses aux problèmes de la population. C'est comme ça que vous avez un grand programme, chaque année, chaque 5 ans, chaque mandature, bien entendu, au niveau central. Vous avez un gouvernement central, et vous avez toutes les institutions que vous connaissez. Au niveau provincial, moutandis. Jusqu'au niveau local. À chaque niveau, la spécificité, c'est qu'un programme, un budget, des acteurs, des organes, ceux qui gèrent et ceux qui contrôlent. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, au niveau des villes, au niveau des communes, secteur ou chefferie, on n'a pas encore organisé les élections locales. Mais au niveau central, au niveau provincial, il y a des gouvernements, il y a des assemblées.
Oui.
Alors, il est très clair aujourd'hui que la situation telle qu'elle fonctionne, en tout cas, ça date de 2006. Et pour arriver à 2023 aujourd'hui, on a fait beaucoup d'années. les lois ont commencé en 2008. Il y en a une vingtaine. Ça s'est poursuivi jusqu'en 2020. Et ça s'est poursuivi parce qu'il y a des normes d'application, ce qu'on appelle des mesures d'application autour de certaines lois organiques ne sont pas encore disponibles. Ça sont des douleurs d'enfantement. Et ça montre également le niveau de volonté politique par rapport à la question de la centralisation qui est censée aujourd'hui, et j'ai comme l'impression, prise en considération par les bailleurs de fonds. Or, les bailleurs de fonds, ils ont leur agenda, etc. Donc, ça aurait pu véritablement être une préoccupation de la République.
Oui.
Heureusement qu'aujourd'hui, il y a émergence de cette volonté et nous pensons que cela pourra véritablement s'arrêter. Alors, qu'est-ce qui se passe en province? L'organisation de la province, comme nous l'avons dit dans le deuxième niveau de gouvernance, il y a d'une part l'exécutif, et l'exécutif, vous avez le gouvernement provincial, qui est dirigé par le gouverneur de province avec ses ministres. Ils sont au nombre de 10, il y en a ceux qui ajoutent des commissaires, etc. Et vous avez l'ensemble provincial. Or, en réalité, mon ami, pour être élu gouverneur, il faut sortir de la majorité à l'Assemblée provinciale.
Oui.
Et donc, les gouverneurs sont élus par les députés. Ils tirent leur légitimité de l'Assemblée
provinciale. Les députés provinciaux.
Les députés provinciaux.
Oui.
Généralement, ce sont les partis majoritaires ou la coalition majoritaire qui donnent un gouverneur au travers des élections, gouverneur et vice-gouverneur. Mais il se pose un problème. La qualité des membres de cette assemblée, qui sont généralement élus actuellement, et comme on a vu par le passé, ne peuvent être éligibles. Certes, il y a des conditions, ça c'est évident, mais surtout il faut avoir la caution. À l'époque, en 2008, en 2006, c'était pas facile d'avoir $250. Ça continue. Aujourd'hui, au moins, on veut bien comprendre le montant qui est demandé et ça, c'est compréhensif par rapport à l'évolution de notre pays. Quand cela ne tienne, et donc, ne peut être élu dans le processus que nous avons connu que quelqu'un qui a un peu de moyens. Parce que non seulement on paye la caution, mais on doit pouvoir négocier avec la population qui est encore dans un état de résignation, de naïveté. Croyant que lorsqu'on lui donne l'argent, et la personne qui donne l'argent est capable de lui apporter de solution. Or, la personne qui donne l'argent, lui, il pense qu'il a donné l'argent et c'est fini pour lui, il n'a plus de compte à rendre et il a besoin véritablement de vivre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette qualité impacte négativement sur la gouvernance de la province. Moutandus pour le gouverneur. Le gouverneur est élu parmi les plus militants. Soit il a fait montre de quoi il est capable, de sa capacité de mobilisation autour de la vision de tel ou tel chef, etc. Et donc, on les choisit. Et donc, nous nous trouvons devant des entités, c'est-à-dire le gouvernement provincial, l'assemblée provinciale, non suffisamment préparés pour assumer les fonctions, qu'elles assument. Et donc, voilà, on se trouve en situation où il y a trop de douleurs d'enfantement.
Mais moi, c'est ce que j'ai retenu qui est plus intéressant pour moi. Vous avez parlé qu'il faut un programme, il faut un budget des acteurs et ce qui contribue, ce qui centralise. Mais le problème est celui plus des acteurs. Parce que lorsqu'on est gouverneur de province, qu'on est député provincial, je pense que les idées doivent converger sur les développements de la province. C'est ce qui devait habiter, en tout cas, tous les acteurs d'une province. Alors pourquoi il y a chaque fois, c'est différent, il y a chaque fois ces problèmes, alors que tous devaient converger des énergies de manière à ce que pour le développement de la province. Pourquoi il y a souvent tous ces conflits de leadership et on a un moment comme l'impression que on tient même pas compte des intérêts de la province.
On ne fait pas la politique en prenant les trains en cours de route. Il faut avoir une conviction, il faut la consolider,
oui.
Et avoir une boussole, j'allais dire une torche qui vous éclaire le chemin de l'avenir. Beaucoup ont pris les trains en cours de route. Il y a un problème, des détresses, de la situation misérable de notre pays. Parmi les secteurs qui payent, il y a la religion, hein, les églises, etc. Il y a la musique, il y a la politique. De la même manière que les pasteurs poussent comme des champignons, les musiciens poussent, etc. Et voilà, au niveau de la politique, aujourd'hui, on a plus de 910 partis politiques qui disent la même chose, qui soutiennent la même chose. Mais donc chacun signe qu'il construit sa boutique pour gagner gain de cause. Et donc, la préoccupation du développement. D'abord, un, vous avez difficile à entendre un homme politique en train de décliner son programme. Tous ces gens qui font fureur aujourd'hui, qui sont censés être populaires, etc. Est-ce que vous entendez leur offre politique, leur horizon politique en l'an 2050, en l'an 2100? Qu'est-ce qu'ils pensent? Quelles sont les priorités? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un déroulement opérationnel qui booste le pays, qui sort la population de la misère? Ce discours-là n'est pas de mise. Et quand vous écoutez les hommes politiques, c'est en train de discuter qui est populaire, qui ne l'est pas, qui doit être élu, qui ne doit pas être élu. Et donc, les questions questionnantes, les questions qui appellent d'autres questions, parce qu'en réalité, la politique doit servir à pouvoir faire une démonstration des solutions que l'on propose pour la population. Et pas seulement une démonstration de solutions, que je considère comme des projets, mais dire où est-ce qu'on aura l'argent et comment on va mobiliser cet argent. Ça, ce discours-là n'est pas de mise. Il doit être domestiqué dans la classe politique. Et aujourd'hui, c'est vraiment, on est à décalage total.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, il y a déjà des auditeurs qui aimeraient réagir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la tendance? Pour faire en sorte que les gens ne viennent pas faire la politique pour de la politique, mais viennent plutôt pour servir la population, vient plutôt pour développer leur province. Il faut parler de la gestion d'abord dans nos provinces.
Il faut que notre peuple soit mesurant de se prendre en charge, d'avoir la capacité de lucidité, la croissance de la compréhension pour savoir que telle ou telle personne développe quel discours et quelles sont ses attitudes, quel est son comportement, quel est son état d'esprit. Tant que notre peuple sera dans la résignation, dans la naïveté, pour chercher des miettes auprès de ceux qui se présentent devant lui, et donc pour donner la voix et voter des hommes et des femmes qui véritablement n'ont même pas le profil ni la vocation de pouvoir servir la République, on va souffrir pendant longtemps. Donc nous avons la responsabilité à la fois d'élever le débat politique, et le débat politique passe par des offres politiques, passe par des projets, et les discussions doivent être des projets contre projets. Et vous, les journalistes, vous devez nous aider. Comment on peut appeler un homme politique à la radio pendant une heure du temps pour ne parler essentiellement que voilà, il est dans un regroupement politique, ils sont plus majoritaires que ceux, il a été accueilli par telle ou telle population, mais il ne dit pas très concrètement comment va-t-il donner les routes, comment va-t-il améliorer la santé, comment va-t-il améliorer l'école, l'alimentation, les logements, etc. Comment cela devra se dérouler? Comment?
Est-ce que le leader politique se donne la peine de sortir la population de cette naïveté? Bien au contraire, ils en profitent de la pauvreté, de la misère de la population pour les manipuler.
Mais vous êtes là. L'ambiance et l'esthétique démocratique, c'est avoir autant de garde-fous. Vous l'avez toujours dit. La presse, c'est le quatrième pouvoir. Si l'homme politique ne peut pas faire ça, si la société civile ne peut pas faire, encore que vous faites aussi partie de la société civile, ça c'est évident. Mais je dis, mais il faut poser des questions de fond, des questions pertinentes. Comment quelqu'un qui sait qu'aujourd'hui nous sommes à 110 millions d'habitants et que demain, en 2050, à moins de 30 ans, on sera à 220 millions d'habitants, en 2100, on sera à plus de 400 millions d'habitants, à 110 millions, nous ne savons pas comment nous pouvons nous loger, manger, aller à l'école, santé, à route, etc. Et donc, à moins de 30 ans, sera le double. Quelle est sa vision? Quelle est sa vision? Quel est son programme? Quelles sont ses politiques pour que véritablement, si, parce que les choses n'ont pas changé aujourd'hui, et qu'en 2050, il soit à mesure de booster le développement de la République. Ça, ce sont des questions que nous entendons, pour lesquelles nous voulons que tous les acteurs politiques en face, c'est pas un intérêt particulier et un débat
assez rationnel, à la radio, à la télévision, pour que, au même moment qu'on discute, ça permet de donner les informations qui accroissent. N'est-ce pas, la lucidité, la compréhension de notre peuple. Et c'est là qu'on aura des citoyens responsables.
On revient à vous, à Monsieur Norbert Yambayamba. Je rappelle, si vous venez de vous joindre à nous, c'est votre magazine Okapi Service sur votre radio de la paix, Radio Okapi. On est en train de parler de comment assurer la cohésion et la bonne gouvernance dans les provinces de la RDC. Si vous voulez intervenir, je rappelle le numéro, c'est les 099-706-9941. Vous le faites simplement avec un message vocal. N'appelez pas à ce numéro-là. On a des gens en ligne. Bienvenue, Kinkala, qui nous appelle de Kikwit. On va l'écouter.
Je suis bienvenu, Kinkala. Je vous appelle de Kikwit. Par rapport à la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos provinces puissent bien travailler, je crois. En premier lieu, il faut faire l'observance des respects des textes qui nous régissent. Vous êtes sans ignorer que ça fait aujourd'hui, je dirais, près de plus de 10 ans depuis que nous avons adopté ce système de décentralisation dans notre pays. La loi dit à ce que les provinces doivent retenir à la source 40% des recettes pour leur fonctionnement. Mais il s'avère aujourd'hui, depuis ce temps-là, rien ne décolle dans ce sens-là. On a adopté un nouveau système avec la rétrocession qui vient en compte-gouttes, qui vient selon les humains des autorités nationales. Et ça, si le gouverneur est en bonne relation avec les autorités nationales, on peut envoyer l'argent. Or, en voyant la situation dans laquelle se retrouvent nos provinces actuellement, ils sont en difficulté pour mobiliser les recettes qui pouvaient leur permettre à faire mobiliser, à faire décoller leurs provinces respectives. De l'autre côté, il y a les députés provinciaux qui certaines provinces, les députés passent même 10 mois, 11 mois, voire même une année, sans toutefois toucher à leur dit. En voyant tout cela, les députés pensent que l'exécutif provincial vit mieux que eux. Ce qui attise toutes ces tensions que nous voyons par-ci, par-là, motion de défiance. Toutes ces motions-là n'ont qu'une seule source, trouver quelque chose pour qu'eux aussi se retrouvent. Si jamais les lois de notre République seraient respectées à la lettre et que les provinces retiennent 40%, voilà, aujourd'hui on peut nous dire toutes les provinces n'ont pas les mêmes ressources et pour cela ils ont instauré ce système de caisse de péréquation. Mais au début d'abord on doit faire en sorte que la loi soit respectée. Si on essayait de respecter la loi dans ce sens-là, je crois, même si ça ne pouvait pas endiguer tous les conflits qui existent entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales, mais néanmoins, ça pouvait soulager tant soit peu. Voilà, merci. Je vous dis bonne journée.
Bonne journée à vous aussi. Bienvenue. Merci d'avoir réagi depuis Kikwit, Monsieur Norbert.
Je voudrais saluer bienvenue, madame, pour sa pertinente intervention sur le respect du texte. S'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de régulation sociale. Et donc, le développement devra s'éloigner. Cependant, je voudrais vraiment dire à Bienvenue, qui est à Kikwit actuellement, que j'ai une expérience depuis de deux décennies dans une grande institution internationale. Et nous avons travaillé pour aider à informatiser les recettes de chaque province. Il n'est pas loin de la province dont je fais allusion. Et au départ, lorsqu'il y avait toutes les provinces réunies, quatre provinces réunies dans une seule province, ils produisaient à l'époque, c'était 30 millions de francs congolais. Et les 30 millions de francs congolais, ça représentait 30 000 dollars. Nous avons identifié des sites avec les autorités, on a mis en place un système informatisé qui permet de construire la traçabilité des recettes. Curieusement, on est parti de 30 millions un mois après à 400 millions. Et pourtant, la province était réputée très pauvre. Je voudrais parler de la province de Bandundu à l'époque, avec 31 dollars par habitant par an. Ce qui était
grave. On est parti dans de 30 millions de francs congolais à 400 millions.
Et puis après, on est reparti les mois après à 700 millions jusqu'à atteindre 1 milliard. Et cette transabilité faisait peur aux autorités qui avaient une... Et ça, ce sont des recettes générées localement. Localement, j'insiste. Ce n'est pas des recettes rétrocédées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tellement qu'il y avait la transabilité, les gens ont se dit, mais on va vivre comment? Alors, ils ont commencé à saboter les machines. Et les machines étaient véritablement sacrifiées au point où on est revenu à 40 millions. On est revenu à 40. Où sont passés les montants qui ont été mobilisés lorsqu'il y avait traçabilité? Ça veut dire en fait, bienvenue, ça veut dire en fait que partout, on peut se trouver en province, lorsqu'il y a des mécanismes, il y a une volonté volontariste des autorités de booster leur entité, on peut faire avancer les développements. Certainement que cela n'exclut pas la responsabilité du gouvernement central qui doit rétrocéder, encore que c'est un nom, c'est un concept impropre. Ici, c'est la retenue à la source. C'est très important. Aujourd'hui, la caisse de péréquation souffre encore, parce que c'est le 10% de ce que représente le budget d'investissement. On aurait pu véritablement construire cette péréquation. Ça n'arrive pas toujours de manière équilibrée. Ça sont des défis hein, pour la République. Mais je voudrais que la vision du législateur, il a pensé que en donnant la responsabilité aux provinces, en les reconnaissant comme des entités autonomes, autonomes de gestion technique, matérielle, financière, à leur donnant la possibilité de mobiliser des ressources et de faire une nomenclature des taxes qui correspondent à leurs prérogatives, en donnant des organes de contrôle, qui est l'Assemblée provinciale, qui peut faire le monitoring de l'action de l'exécutif, en responsabilisant la société civile, en ayant toutes les structures de dissuasion comme l'IGF, la Cour des comptes, le tribunal, etc., tout ça, toutes ces structures-là peuvent aider à monitorer l'action de l'autorité et on peut véritablement avoir des moyens. Voilà. Bon, toutes ces structures-là, chaque structure veut ponctionner quelque chose au point où rien ne tombe sur la
population. S'il faut faire des choses toujours de cette manière-là, on a mis des mécanismes pour suivre la traçabilité de tout ce qui concerne les fonds de l'État. Il y a des gens, plus on revient encore sur les acteurs politiques congolais, sur les personnes qui dirigent, ils ne veulent pas de ces mécanismes de traçabilité. Mais finalement, la bonne gouvernance, il ne restera qu'un vain mot.
Non, mais c'est un vain mot. Il faut arrêter. Bonne gouvernance, ça c'est un slogan qui nous a été importé des institutions de Bretagne ou autre. Non, bon, écoutez, nous devons être à mesure de comprendre que c'est notre pays et que des hommes et des femmes qui gèrent des provinces, qui gèrent des villes, qui gèrent des communes, des secteurs, qui sont censés être des entités autonomes en termes de budget, en termes de programme, en termes de politique. Écoute, il faut qu'il y ait des hommes qui croient à leur pays, qui aiment leur pays, qui ont la capacité, la compétence technique pour le faire. Le grand problème, c'est quoi? C'est que nous avons des hommes, écoutez, il ne faudrait pas que je généralise, chaque chose a sa, chaque règle a ses exceptions, mais la plupart, c'est comme si personne ne demande à personne. On est là, l'Assemblée provinciale, qui aurait pu faire véritablement le vrai contrôle, l'Assemblée provinciale commence à faire des motions, justement pour intimider l'autorité, à pouvoir décaisser de l'argent et permettre aux députés de vivre. J'ai été toujours comme consultant dans une institution, j'allais dire la Banque mondiale à l'époque, je fais une étude sur la capacité de gestion de nos provinces. Et j'arrive dans une province, je pose la question, quel est le budget? Le gouverneur lui-même a difficile à connaître par cœur son budget. Quels sont les axes directeurs du programme? Il a difficile. Il dit non, il faut qu'on... Alors, c'était le président de l'Assemblée. Et le président de l'Assemblée dit non, attendons les questeurs. Et les questeurs arrivent, les questeurs ne connaissent pas. Il dit non, voyons les documents. Voilà. Donc, tu vois, la présence d'esprit, la situation n'est pas dans le cœur. Voyons les documents. Comment vous, qui êtes le contrôleur premier de la province, donc, vous estimez que il faut lire les documents pour connaître le montant du budget réservé à la province? C'est pas correct. Donc, il faut des hommes qui ont cultivé
le sens du combat, le combat contre la pauvreté, que ces hommes prennent les responsabilités. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui a des foulards, des écharpes, en train de faire des déclarations, et ce sont les mêmes qui seront demain gouverneurs, maires de ville, bourgoumestres, etc. Alors, vous allez vous entendre à quoi? Vous allez vous entendre à quoi? Donc, on entre dans un processus de complaisance permanente, récurrente, et qui va véritablement retarder
le développement. Mais il faut finalement sortir de ce cycle infernal. On ne va pas rester dans ce cycle infernal, il faut sortir absolument de ce cycle infernal.
Et c'est ça justement que le chef de l'État se bat pour avoir une classe politique responsable, une classe politique qui a non seulement le feeling politique mais aussi la technique, parce que c'est la technique qui ne se négocie pas, et c'est la technique qui permet véritablement de booster la République. Donc, là, il y a un problème réel à l'intériet des partis politiques. On les crée un peu de temps, on crée 45% pour une législature. 45% des partis politiques qui existent sont créés essentiellement parce que les gens pensent qu'un parti politique c'est une boutique.
Mais c'est le ministère de l'Intérieur qui valide tous ces partis politiques. Ben, est-ce que vous avez le temps de vous assurer que ces partis politiques sont vraiment en pignon sur eux?
Non, nous avons le temps, mais ces gens-là, la plupart qui créent les partis politiques sont des gens qui ont l'argent, il a les sièges, il a les hommes, il a tout, il fait toutes les formalités d'usage, vous n'allez pas contester avec la personne. Vous avez donné l'autorisation à l'autre, et laissé l'autre qui a accompli les mêmes formalités. Je crois que le problème n'est pas là. Le problème est au niveau de la prise de conscience de ce qui représente le dégât de notre pays. Notre pays connaît des moments très très difficiles. La classe politique vit dans une sorte d'érosion mentale. Et la classe politique s'est éloignée de l'horizon politique. L'horizon politique, ça veut dire avoir une norme.
Et une classe politique qui se lance de plus en plus. Qui se lance de plus en plus, parce que on se rend compte que on n'arrête pas de ça fait des années maintenant qu'on n'arrête pas de criminer à cette façon de faire de la classe politique congolaise, mais apparemment rien n'est changé.
Non, on incrimine, mais on n'arrive pas à poser des actes qui permettent à la classe politique de changer. Vous là, quand vous recevez c'est pas un homme politique, c'est de manière amicale, vous évitez même de lui poser des questions qui peuvent lui faire mal.
Mais en tout cas pas la radio Capi.
Je parle au nom de journalistes. Parce que moi-même je suis politique,
oui.
Et je communique,
oui.
Et je connais comment les choses se passent. Et donc si le jour où vous allez comprendre que vous êtes un pouvoir et que vous êtes capable de réguler les comportements des hommes politiques, ils vont commencer à se préparer. Comment une classe politique, vous entendez 97% des gens qui passent à la télé n'ont pas de statistiques de leur pays, de leur province, etc. Pose la question même aux intellectuels pour savoir quel est le budget de la ville de Kinshasa. Une ville masterdote comme ça, de plus de 15 millions d'habitants, on ne connaît pas le budget. Vous voyez, on ne connaît pas les axes directeurs. Alors comment va-t-on critiquer? Comment va-t-on faire monitorer? C'est ça le grand problème. Va à l'université.
On dirige le province sans des actions concertées.
On va à l'université. Pose la question au professeur. Quel est le budget de l'enseignement supérieur universitaire? Pose la question. Et quelles sont les priorités retenues? En tout cas, vous n'aurez pas 90% des gens qui vont vous répondre. Oui, donc c'est ça le malheur. Alors vous les journalistes, le budget de la communication, médias, c'est combien? Et quels sont les axes prioritaires? C'est ça. Et vous les agriculteurs, quel est le budget d'agriculture? Ça représente combien? Quelles sont les priorités pour cette année? C'est de tout ça, cher ami. Alors maintenant, quand les gens ne se sentent pas contrôlés, le terrain devient très fertile, ou même des graines pourries germent bien. C'est ça. Et donc, nous, c'est un défi pour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons une opportunité d'avoir celui qui a été un opposant, les premiers d'ailleurs, qui ont résisté à un système d'antivaleur, etc., et qui est au pouvoir, et qui est pudique, et qui, visiblement, lorsque on met en place un système de contrôle, il sera toujours interpellé. Au moins, là, il n'aura pas la conscience tranquille. Mais alors, il faudrait que les uns et les autres profitent de cette opportunité pour que finalement chacun joue sa partition. Or, le travail lui-même vous entrez même dans des ateliers, etc. On pose la question, pourquoi, mais on ne pose pas la question de comment faire. Et là aussi, c'est une faiblesse intellectuelle qui se cristallise, n'est-ce pas, dans une société, et qui aura difficile véritablement à impacter le développement de notre pays.
Voilà, on continue avec ces sujets sur comment assurer la cohésion, la bonne gouvernance dans les provinces de la RDC. Si vous voulez intervenir, je rappelle le numéro, c'est 09 706 9941. Vous le faites par un message vocal, et surtout n'appelez pas. Alors on va lire cette réaction sur notre page Facebook. C'est la réaction de Justin Calabia qui nous écrit depuis Goma. Les gouvernements provinciaux doivent être constitué des personnes compétentes qui ont de l'expérience dans la gestion de la chose publique. Pour les provinces qui sont sous état de siège, le gouvernement doit lever ce mode de gestion de ces provinces par les militaires. Votre commentaire là-dessus?
Non, mais il n'a pas tort lorsqu'il dit qu'il faut que des hommes compétents, hein, qui ont une expérience grandissante en matière de gestion, mais même des hommes compétents dans un environnement pollué, etc., ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Nous avons connu des professeurs, des économistes de renom qui ont été responsabilisés, qui sont tombés. Il faut tout un système bouge et que toutes les structures de dissuasion se mobilisent et que les lampadaires s'allument et que chacun s'interpelle et ait son tribunal de conscience qui véritablement interroge à tout moment. Et ça, c'est une vision qui doit être animée par tout un chacun, ça c'est évident. Mais à la question de l'état de siège, c'est un état de siège qui n'a pas été mis en place par complaisance. Il y a eu analyse du contexte, on a trouvé qu'effectivement l'insécurité était presque permanente. Il fallait y mettre une force obligée et appropriée pour véritablement néantir, étouffer, piétiner cette insécurité. Au fil du temps, c'est comme ça qu'il y a des évaluations au Parlement pour voir, oui ou non, faut-il continuer avec l'état de siège. Les moments viendront lorsqu'on estime que à ce moment-là, c'est même plus les mêmes indicateurs qui ont motivé, n'est-ce pas, la mise en place de cet état de siège. Écoutez, le gouvernement de la République, en toute responsabilité, prendra une décision. Oui, mais ce qu'il dit est entendu et je pense que ça va être comptabilisé dans l'analyse gouvernementale.
On va écouter un autre auditeur, c'est Georges qui réagit depuis Lubumbashi. Bonjour Georges.
Bonjour Monsieur Marcel Ngomomba Lakeba. Bonjour aussi à Monsieur Yamba Yamba et à tous les auditeurs de la Radio de la Paix. Monsieur Marcel Ngomomba Lakeba, j'aimerais demander à notre invité. J'ai quelques questions. La première, j'aimerais savoir, monsieur l'invité, comment il peut expliquer tout le désordre qui sévit dans différentes assemblées de notre pays. Nous assistons à des scènes où vous voyez des députés et certains se permettent de faire les plénières, même dans des bars. Où vous trouvez le gouverneur avec une partie des députés, vous trouvez le président de l'Assemblée avec une partie des députés, alors ça crée vraiment un grand désordre. Et si je me réfère à la province où je suis originaire, la province d'Itanganyika, aujourd'hui le bureau de l'Assemblée est fermé, gouverneur déchu, mais réhabilité dernièrement par la Cour constitutionnelle, alors ça crée vraiment un grand désordre et je suis sûr que cela bloque vraiment le développement de nos provinces. Alors comment il peut expliquer ça et comment on peut arriver à terminer tout cela? Ma deuxième question, monsieur Marcel, pourquoi surtout nos gouverneurs travaillent pour leur parti politique mais certains ne travaillent pas pour l'intérêt de la communauté. Et surtout, je me demande pourquoi le ministère de l'Intérieur s'intéresse trop aux activités provinciales. Et surtout, si je me rappelle encore, il y avait un gouverneur de notre province d'Itanganyika, là où je suis originaire, le gouverneur Zoé, parce qu'il n'avait pas la volonté de se rallier à une plateforme politique, et il a été déçu d'une manière désolante. Alors, je me demande pourquoi vraiment le ministère de l'Intérieur s'intéresse trop aux activités qui se déroulent au sein de nos provinces. Et pour terminer, Monsieur Marcel Ngomomba Lakeba, j'aimerais vraiment demander à notre invité qu'est-ce qui est à la base de ces motions de déchéance qui sont devenues monnaie courante dans notre pays. Et surtout, moi, je me demande, cela se vit surtout dans des nouvelles provinces. Dans des anciennes provinces, c'est vraiment très, très rare d'assister à des motions de déchéance. Je prends la province telle que Didio, Katangala, Lubumbashi, au Nord Kivu. Par exemple, c'est très rare d'assister à des scènes ignobles au sein des assemblées, mais dans de nouvelles provinces, cela se voit presque chaque mois ou bien presque chaque semaine. Là, on attend à telle province, le président de l'assemblée déchu, le gouverneur, des problèmes, surtout des conflits comme ça. Et ce que j'aimerais demander, c'était tout. Donc, merci beaucoup. C'était Georges Mukinda à partir de Lubumbashi.
Voilà, merci Georges. On va passer à une auditrice, on signale qu'il y a une auditrice qui a réagi également, c'est Solange, depuis Bukavu, apparemment ce n'est pas encore prêt. On va revenir à Solange. Votre réaction, monsieur Norbert Yambayamba.
Je voudrais saluer Georges, et surtout la pertinence de ces questions, mais il doit savoir que... On ne peut pas donner des solutions simples, simplifiantes à des problèmes complexes. La question qu'il pose sur les provinces sont des questions complexes que je ne peux pas donner des recettes directes. Je voudrais simplement lui faire voir que lorsqu'il y a des problèmes au niveau des provinces, cela s'éloigne. N'est-ce pas, du développement de la province. Parce que les bruits chassent les capitaux. Personne ne peut faire confiance à une province où à tout moment les différents organes qui ont été mis en place ne s'entendent pas. Donc, ce que nous assistons dans les provinces, on trouvait déjà solution par rapport à tout ce que j'ai dit ici depuis que je suis là. Je vous ai dit d'abord la qualité des hommes et des femmes qui sont dans les assemblées comme au niveau du gouvernement provinciaux. Je vous ai dit également non seulement de cela, mais les motivations des uns des autres. Quelle est la motivation? Est-ce qu'on vient, on veut être représentant du peuple ou on veut être gouverneur pour transformer c'est pas sa province? Et si c'est pour transformer sa province, quelle est son offre? Quel est le chronogramme de ses actions qu'il a prévu pour véritablement transformer? Voilà. Donc, si on n'a pas les motivations, sa préoccupation c'est d'être au service de son chef ou à ce qu'il vous a envoyé, si la préoccupation c'est pas de s'enrichir individuellement, la préoccupation c'est de pouvoir travailler pour son parti politique. Et donc, la population est reléguée au second plan. Et donc, il ne faut pas vous entendre à quoi que ce soit. Raison pour laquelle, de temps en temps, quand il y a accrochage entre les motivations du gouverneur et les motivations, n'est-ce pas, des députés provinciaux, ça pose problème. Et on assiste à longueur de journée, surtout que ce sont les gouverneurs, les gouvernements provinciaux qui ont la gestion quotidienne du butin. Or, quelqu'un, un auditeur l'a dit, le butin à gérer est insuffisant. Et donc, le premier bénéficiaire, c'est le gouvernement provincial, sous le leadership du gouverneur, et les assemblées se disent, mais écoute, au moment où nous sommes en situation d'impayement, et touchent déjà le salaire, etc., surtout que, et là, c'est très important, monsieur Marcel, parce qu'en réalité, lorsqu'on est en province, et j'ai eu l'occasion de faire cette étude-là, vous allez voir, vous êtes en face du gouvernement provincial, il vous dit non, mais nous n'avons pas encore reçu les rétrocessions. Nous n'avons pas encore, ou nous avons reçu une fois, ou deux fois. Mais il ne dit pas combien d'argent il a mobilisé localement. Parce qu'il y a des taxes d'intérêt commun, et qui sont mobilisées. Les taxes, la nomenclature est très claire. Alors maintenant, on ne dit pas même pas le montant. Et lorsqu'on dit, on minore ça. Vous voyez? C'est un problème réel, et les députés sont en train de regarder ça. Ils savent qu'en dehors des freins de rétrocession, écoutez, il faut des ressources générées localement, etc. Et donc, ces ressources sont utilisées par le gouverneur, et ces ressources ne servent pas même pas au développement. Certainement que, bon, dans des provinces un peu avancées où il y a des recettes un peu immenses, on s'en sert. Ça, c'est
on, on va reprendre une dernière auditrice et puis on va conclure avec vous. C'est Solange qui réagit depuis Bukavu. Bonjour Solange.
Bonjour Radio Capi, bonjour à l'invité qui est dans les studios et bonjour à tous les auditeurs. Moi, c'est Solange Sadi, j'appelle depuis Bukavu. Je voudrais intervenir, apporter ma modeste contribution quant à la question qu'on se pose aujourd'hui, que faire pour amener une bonne gestion dans les provinces et ainsi endiguer tous les conflits qui s'en suivent. Moi, je pense que l'homme noir, au départ, devait se remettre en question. Parce qu'aujourd'hui, nous nous voyons que les Blancs sont en train de nous imposer des systèmes qui ne sont pas adaptés à notre mode de vie, à nos capacités, à nos cultures. Et nous les acceptons et quand nous les mettons en application, nous échouons lamentablement. Tandis que ces systèmes réussissent chez eux, chez nous, nous échouons. Quand l'homme blanc est venu en Afrique, il avait trouvé déjà des royaumes stables, développés avec des systèmes de gestion dynamiques, avec la paix, mais dès le moment qu'ils ont cherché à nous imposer leur système, nous n'avons pas pu nous adapter. Ce que je demande, au lieu d'aller dans des théories, aller dans des stratégies, chaque jour on change des stratégies et rien ne marche, nous devons nous remettre en question et revenir dans nos anciens systèmes. Parce qu'on en a assez. Tandis que les autres avancent, les Blancs avancent, nous sommes à la traîne et ils continuent à nous imposer des systèmes qui ne sont pas adaptables. Merci. Je pense que le meilleur serait de nous remettre en question et de revenir dans nos anciens systèmes. Parce qu'on a beaucoup parlé, on a écrit, il y a des politiciens qui ont émis des théories, des lois sont sorties, mais jusque-là, rien ne marche. Merci.
Merci à vous Solange depuis Bukavu. Alors on va conclure avec notre invité Norbert Yambayamba. Moi j'aurais tenu, avant que vous réagissiez par rapport au propos de Solange, il faut des hommes qui font la place qu'il faut, qui ont un programme, un budget, des actions et ceux qui contrôlent.
Tout à fait, vous n'avez pas vraiment pas tort. Et il faut des hommes et des femmes qui ont les profits, qui ont la compétence, qui ont la motivation et qui connaissent les niveaux de dégradation de la situation de notre pays et qui se mettent comme des serviteurs pour élever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté dans notre peuple. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faudrait que les règles qui ont été mises en place, que chacun joue sa partition. Respecter ces règles-là dans le respect mutuel.
Souvent, je dis les mêmes discours. C'est toujours alors, même, on attend toujours les mêmes
maintenant,
choses.
Maintenant, je viens à l'intervention de Solange
oui.
Et que je salue en passant parce oui. Que j'ai senti que c'est une panafricaniste comme moi. Je suis président de la Nouvelle Vision panafricaine. Je venais d'ailleurs d'obtenir. Je viens d'être élu lauréat du diplôme panafricain. Oukala Lomoutoundé, qui est un panafricaniste carabéen. Je voudrais dire à Solange que vous avez pleinement raison. Et raison pour laquelle je me bats chaque jour pour que finalement, quand on monte sur une échelle, si on n'arrive pas en destination, il faut savoir changer d'échelle. Nous avons importé tout. Que ce soit la religion, ce sont des religions importées. Que ce soit les systèmes éducatifs, tous les programmes, tout ce que nous apprenons, ça c'est importé. Que ce soit les systèmes politiques, la démocratie dont nous parlons, le système de décentralisation, les partis socialistes, les partis libéraux, les partis, tout ça c'est importé. Nous avons tenté, ça ne nous a pas permis d'avancer. Alors maintenant, lorsque vous interrogez l'histoire de nos ancêtres, vous allez entendre qu'à l'Égypte antique, écoute, l'Afrique a été plus puissante. Première puissance politique, culturelle, économique. Et donc, nous avons dominé le monde. 300 000 ans, nous avons vécu dans une sorte de confédération des royautés, les royaumes, les empires, etc. La République n'est pas notre histoire. Nous avons importé. Et nous avons été piégés. Et aujourd'hui, nous avons échoué. Il faut donc revenir à ce que nos ancêtres faisaient, qui a fait que, déjà au XIIIe siècle, 1236,
à l'Empire du Mali, nous puissions inventer la première charte des droits de l'homme, qu'on appelle Kurunkuvuga, 44 articles. Nous avions eu la plus grande université du monde, l'université Sankore en Tombouctou. Nous avons des hommes et des femmes aujourd'hui.
Et on a renvoyé tout ça dans l'oubli.
Dans l'oubli total. Donc voilà. Nous devons construire notre rebondissement autour de nos héritages traditionnels. Savoir que nos ancêtres ont survécu pendant 300 000 ans, il n'y avait pas aucune race au monde. Alors, comment nous ne pouvons pas interroger cela? Interroger cela pas pour copier vaguement, mais nous devons être en mesure de scientifiser, de moderniser et de théoriser cela.
Voilà,
tout ce que nous avons eu comme enseignement qui est venu de l'extérieur.
On va revenir dans nos prochaines émissions par rapport à cet aspect sur le panafricanisme. En tout cas, pour aujourd'hui, on vous dit merci à M. Norbert Yambayamba d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages sur la décentralisation et aussi, vous l'avez dit, panafricaniste.
Je suis maintenant en train de produire un ouvrage sur la décentralisation. Pas la décentralisation à l'occidentale, mais une décentralisation basée sur nos héritages traditionnels. Parce que nos ancêtres vivaient dans une décentralisation. Mais nous n'avons copié les autres sans comprendre que nous étions déjà décentralisés.
Merci beaucoup. Tout le plaisir a été pour nous d'être avec nous dans ce studio. On espère vous retrouver prochainement.
Merci bien. Merci Marcel pour l'invitation.
Radio Capi, grand témoin.
Grand témoin reçoit M. David Kamoua Moussoubao, homme politique et entrepreneur de la province du Nord Kivu. Dans cet entretien, il parle de son rêve du Nord Kivu 100% Pessan, qui veut dire une province propre, éclairée, sécurisée, asphaltée et numérisée. Grand témoin avec David Kamoua Moussoubao, c'est à suivre ce dimanche 9 juillet à 9h05 heure de Kinshasa, rediffusion à 20h.